Bienvenue dans ce second épisode de Techno Terroir, le podcast qui interroge notre rapport aux machines dans la vigne. Je continue mon chemin pour définir les mots et le périmètre de mes questions. D'abord le qui, le comment, avec l'atelier paysan, dans le premier épisode, et maintenant le quoi et le pourquoi. Je m'interroge sur les outils que je vais devoir comprendre et modifier, mais que devient ma main qui tient l'outil? Quelle est la place de mon corps dans cet espace face à mes futures machines? Est-ce que le fait d'être genré féminin est un frein physiologique? Ou bien au contraire une force qui permet d'imaginer d'autres façons de faire? Pour avoir un début de réponse, je vous emmène à la rencontre de Colline Cuny, artiste plasticienne. Elle vit près de Redon, dans un atelier qu'elle a auto-construit près de sa maison. Elle travaille sur les gestes agricoles, sur les traces que les outils laissent dans nos corps, surtout ceux des femmes. J'avais envie d'avoir le regard d'une artiste sur mes questionnements parce que j'ai un grand respect pour ces personnes qui sont comme les antennes sensibles de nos sociétés où nos imaginaires sont tellement saturés. J'ai grandi dans plusieurs milieux culturels différents, mais l'art a toujours été mon point de référence, donc j'avais besoin d'y revenir. De toute façon, ça fait toujours du bien de sortir des rangs et de prendre une perspective plus sensible. Donc Colline, elle façonne avec ses mains tout en questionnant l'objet outil. Et je voulais comprendre ce que ça voulait dire pour elle. Alors on s'est donné rendez-vous dans un café pour discuter. Et je m'excuse d'avance pour les bruits de fond, mais bon, c'est ça aussi, les podcasts tout-terrain.
Eh ben, merci Colline. On se retrouve à Redon, dans un café juste à côté d'un port. C'est quelle fleur là qui est à côté? C'est la vilaine. C'est la vilaine. C'est très beau, il y a beaucoup de vent, alors on a dû se rapatrier à l'intérieur, dans une ambiance cosy. Et on va pouvoir parler de ton travail.
Colline Cuny, je vis à côté de Redon, dans le pays de Redon, en milieu rural. Et j'ai 37 ans, je suis artiste-auteur, et je fais en particulier de la sculpture. Et je travaille dans ce domaine-là, en particulier avec de l'argile crue, cuite, de la terre. Et il y a quelques années, maintenant en 2022-2023, j'ai commencé une recherche qui est toujours en cours et qui s'appelle Paysannerie, au pluriel. Et le sous-titre, c'est « Et la fin des enclosures ». Et donc, dans ce cadre-là, on s'est rencontrés puisque je t'avais posé des questions sur ton métier, sur ton rapport au travail avec les vignes. Et ça a ouvert plein d'échanges et super rencontre. Voilà.
Chaque fois qu'on se voit, on s'échange plein de noms, de livres, d'auteurs et d'autrices. Donc c'est vrai que c'est assez riche. Et donc ce projet aujourd'hui, il a quelle forme?
Alors c'est toujours... Je l'appelle, c'est encore une recherche parce qu'il n'a pas pris corps, il n'a pas de forme définie, en tout cas pas de forme finale arrêtée. Et aussi parce que je suis encore en train de dialoguer avec des agricultrices autour de leur métier. Donc le moment de la recherche, il est encore un peu en train de se préciser, certes, mais un peu s'ouvrir. Enfin, le moment où on referme. On a plein de matières et d'éléments de recherche et qu'on va préciser les choses, ce n'est pas encore tout à fait arrivé pour moi. Voilà, donc j'appelle ça encore une recherche. Ce n'est pas une recherche sociologique du tout, c'est une recherche plastique et artistique. Donc qui va mêler des paroles, des mots. Donc, ça peut aussi être une matière presque littéraire, avec des images, des expériences aussi... dans les champs parfois, dans les vignes. En fait, c'est aujourd'hui tout un tas de matériel que je vois avec le prisme de l'art.
Et le point de départ, ça s'est venu comment?
Alors, le point de départ, c'est une étude qui a été menée en 2021. Qui s'appelait Usagère, en fait, usager-usagère avec l'inclusif, et qui était issu de discussions entre des groupes de femmes en non-mixité autour de leur pratique professionnelle, donc d'agricultrice. Et ce rapport-là, moi, j'ai lu le rapport, Et ça a évoqué. Alors, comment je suis tombée dessus? Je pense que c'est parce que je faisais déjà dans mon travail, la question de l'objet, elle se pose beaucoup. Je suis sortie, donc j'ai été diplômée des Beaux-Arts de Paris et de Nantes, et donc avec une culture, surtout en sculpture, hein, de la forme trois dimensions, de l'objet, soit à l'échelle du corps ou plus grand, voilà. Et petit à petit, j'ai un peu questionné pourquoi est-ce que cet objet, il nous fascine tant, pourquoi est-ce qu'on s'entoure autant d'objets. Enfin, ça me pose quand même question. Et l'outil est un type d'objet qui m'intéresse en particulier. Et voilà, après, ça fait des années que j'ai un peu. Je me demande si c'est l'objet qui nous donne une direction dans notre usage ou inversement, si c'est ce qu'on appelle l'affordance ou inversement, si c'est l'objet qui subit. Enfin, je sais plus si c'est ce que j'ai mis en premier, mais est-ce que c'est l'objet qui nous donne une direction ou est-ce que c'est nous qui donnons un usage à l'objet? Enfin, j'ai travaillé ça pendant un moment. Et notamment, quand j'étais étudiante, j'ai lu le roi Gourhan et son travail sur l'outil avec intérêt. Et voilà, je crois que c'est revenu un peu malgré moi.
Définir ce que vous entendez par objet technique.
Eh bien, plusieurs acceptions sont possibles au terme d'objet technique. Pour nous, l'objet existe dans la mesure où il est inclus dans une chaîne de gestes, dans un comportement technique général. Une hache ou un ciseau à bois ou un instrument à faire le feu ne sont réellement existants que dans la mesure où ils sont d'abord insérés dans des traditions techniques qui tiennent à toute l'infrastructure même de la société dont ils émanent, et dans la mesure où ils sont liés à des gestes, à un comportement précis, ce que nous appelons le comportement opératoire, lequel implique des traditions différentes dans les différentes régions du monde et aux différentes époques.
Monsieur le patron.
En fait, j'ai fait au début de la recherche, donc j'ai interviewé ces femmes et je suis allée dans deux bibliothèques. Une qui est une bibliothèque spécialisée au Musée des Beaux-Arts de Nantes. Et j'ai cherché dans l'iconographie disponible, dans les documents qu'il y avait sur place, des représentations des femmes dans les champs, au travail, dans les fermes, en fait, dans des activités agricoles. Alors, il y a très peu de représentations avant le 19e siècle. Après, c'est leur fond documentaire aussi, hein, mais de manière générale, il y a les...
Même dans les riches heures,
oui, il y a les
ouais,
riches
bah, elles
heures.
sont habillées comme... Enfin, ouais, elles sont comme les hommes, quoi. Il n'y a pas trop de différence
Ah
dans
non,
l'ancien.
on les voit, on les distingue très bien. Et c'est celles qui vont être les plus variées et qui vont être quand même assez proches de... Enfin, assez explicites. Sinon, enfin, oui, variées parce qu'il y a des activités très diverses et c'est presque vraisemblable. Enfin, c'est vraisemblable. Mais dans toute l'iconographie du 19e siècle, en fait, comme on arrive déjà dans un rapport, dans un moment où le monde industriel est en train d'émerger avec la nécessité poussée par des énormes familles et des gros groupes industriels, nécessité de produire plus et d'augmenter, voilà. Et bien en fait, les corps, ils sont aussi dans cette représentation. C'est des femmes souvent quand même très jeunes, très belles, très musclées, dans la performance de leur travail, qui portent. Enfin, moi, j'ai jamais vu des gens porter comme ça des fagots, des blés. Enfin, c'est très romantique, très. Et en fait, non, mais c'est des artistes qui venaient peindre quelques jours et qui. Après, il y a Bruegel aussi qui a peint beaucoup de paysans et là, on est dans
Beaucoup
un.
d'empathie. Enfin, je trouve,
Oui.
il y a vraiment, quand tu sens qu'il aime cette communauté, il y a tellement d'humour et de la tendresse
Il y
dans
a
ses
beaucoup de
peintures
tendresse, ouais.
de...
Donc ça, c'est encore quelques indications. Et en fait, il y a souvent le corps au travail, mais il y a aussi le corps au repos. Et il y a beaucoup de paysans qui dorment. Et moi, du coup, je me suis dit, il y a très, nous, aujourd'hui, on a très peu de représentations de paysans qui dorment. On a beaucoup d'idées dans
C'est
les
comme
dans
ça devant leur facteur.
voilà dans l'imaginaire collectif, on pose devant ses bottes de paille, on est en train de travailler, on est sur son
C'est
tracteur.
l'inverse, hein, c'est
Ah oui.
l'actif, quoi.
C'est le tra la valeur
C'est
travail. Il y a dans ce culte, et en fait, le culte du travail, il a fait oublier. C'est un sportif de haut niveau qui parlait de ça et qui m'a beaucoup marqué. C'est que le sportif de haut niveau, il travaille à des cadences folles, il va faire des marathons et tout, mais en fait, derrière, il se repose énormément. Et le corps de l'ouvrier, je vais mettre de l'ouvrière, je ne mets pas de choses derrière. Il est tout le temps au travail et il est très peu au repos. Et donc, il y a peut-être quelque chose comme ça, moi, que j'ai envie d'explorer, c'est-à-dire l'inactivité. Qu'est-ce qui se repose en fait? Qui et qu'est-ce qui se repose dans notre rapport à la production de agricole, quoi.
Nous autoriser le repos, c'est faire place à notre corps. On ne valorise pas le temps à prendre soin. Il y a une fierté à malmener son corps, ou bien à faire comme si cela arrivait tout seul. On a besoin de nous re-rendre compte de ce qu'il y a à faire pour nous maintenir en vie, et de qui le fait. Il faut penser depuis le geste. Karine Saller, dans son livre « Faire de la place ».
Alors, faut que je recontextualise deux choses dont j'avais pareil. C'est des choses, en fait, elles se font, puis après, je regarde et je dis, ah, tiens, ça, c'est marrant. En fait, moi, j'ai un handicap au bras qui fait que je ne peux pas faire le mouvement de supination. Donc, ça veut dire que je ne peux pas mettre mes bras tendus vers le ciel. Je suis bloquée vers le temps. Quand mes bras sont tendus à l'horizontale, ils ne peuvent pas tourner vers le sommet. Donc, pour tous les mouvements autour de moi, en fait, moi, je m'adapte. Donc, au fur et à mesure du temps, bah là, la quarantaine arrive et mon corps il commence à souffrir un peu de cette adaptation constante puisque mes articulations sont sursollicitées. Bassin, je compense et tout. Mais en fait, j'ai fait ça toute ma vie, quoi, de m'adapter aux poignées de porte des voitures, au fait de ne pas porter une assiette par le dessous, en fait, des cartons, des bébés, tout. Il y a plein de choses qu'on porte par le dessous. Mes parents m'ont pas du tout élevée avec l'idée que j'étais handicapée, donc je l'ai pas conscientisée pendant des années et des années. On m'a appris à prendre les objets dans le bon sens, donc c'était le sens usuel. C'était pas du tout mon sens, donc moi je me suis pliée, j'ai plié mon corps à l'environnement extérieur, et je me rends compte que dans la recherche, il y a quelque chose, dans ma recherche, il y a quelque chose qui rejoint cet événement. Enfin, ce handicap, c'est que les corps s'adaptent aux outils. Et donc, deuxième chose qu'il faut dire, c'est que l'étude dont on part, enfin, dont moi je suis partie, dont il est question là, qu'est-ce qu'elle dit? Enfin, c'est un rapport d'un groupe de travail. Ce groupe de travail de femmes dit ça, dit nos corps sont plus légers que celui des hommes. Ils doivent parfois vivre aussi des maternités, une, plusieurs, des fausses couches, des ménopauses. Et peut-être que, je ne sais pas pour quelle raison, en tout cas, elles ont plus conscience de leur corps, elles font plus attention. Donc elles pointent le fait que les objets de l'agriculture, les outils, ne sont pas adaptés à leur corps et que leur corps vient se plier à cet outil. Et elles remettent ça en question, c'est-à-dire des petites morphologies et une volonté aussi de ne pas être dans la performance. En fait, les corps, de toute façon, les corps des ouvriers, qu'ils soient hommes ou femmes, ils sont usés, ils sont déformés, ils sont malades. Mais on dit ouvrier agricole, on pourrait dire ouvrier tout court, en fait, c'est son corps.
C'est un beau lapsus.
Donc, voilà, c'est. Mais elles viennent pointer ça du doigt en disant on va inventer. C'est important pour nous via l'atelier paysan, donc d'inventer de réadapter ou de construire, d'autoconstruire un petit chariot qui nous permet de porter.
Ouais, de pas subir toute la journée.
Voilà, de pas se baisser tout le temps. Qu'est-ce qu'il y a comme possibilité? Et l'entraide est une des réponses aussi. Hein. C'est pas forcément un outil. Enfin, c'est des pratiques. C'est des pratiques collectives. C'est des pratiques de saisonnalité. C'est des pratiques où on ralentit. Et elles n'ont pas forcément comme réponse d'adapter un outil à leur corps ou mieux, un truc plus ergonomique. Plus... Il n'est pas forcément question de ça.
Après, là-dessus, bon, si je peux me permettre de réagir en tant que, enfin, avec ma casquette de vigneronne, c'est que quand tu parles de saisonnalité, ça me parle énormément par rapport aux vignes, parce qu'il y a forcément le moment de la taille, des vendanges. Enfin, tu peux être toute seule ou tout seul à la tête de 5-6 hectares, mais fatalement, il y a des périodes de des saisons où tu as besoin d'être debout. Et à une époque, tu avais tout le village qui venait faire les vendanges. Enfin, tu pouvais te permettre de rester dans un certain niveau de travail manuel, parce que tu avais ce côté collectif qui arrivait. Et ça se mettait après dans les... dans tous les rituels, dans toute la tradition. Enfin, t'avais des fêtes, des réunions. Enfin, je pense à la Saint-Vincent. Enfin, t'as tu vois, des sortes de jalons comme ça qui se créent. Et aujourd'hui, bah, y a plus. Enfin, c'est très difficile de recruter même pour des vendanges ou autre.
Oui, ou c'est très folklorique. Et
donc t'as d'un côté, tu vois, j'aimerais bien, j'ai envie de retrouver ce côté collectif, groupe. Mais à part mes quelques potes motivés à venir parce que ça les amuse, parce qu'ils font pas ça toute l'année, parce qu'ils n'osent pas se taper 3 hectares à tailler sous la pluie de janvier à mars, à part ces poignées-là, c'est très compliqué, je trouve, aujourd'hui, de retrouver ce côté pas communautaire mais commun, ouais, d'un moment agricole.
Non, mais c'est pas forcément de.
Et j'ai peur que ça disparaisse, ouais. En fait. Enfin, parce que comment on fait, ouais, si on veut se libérer des machines, des robots, vraiment des grandes exploitations, et qu'on veut essayer de rester sur des petites surfaces qu'on maîtrise, sur lesquelles on est autonome pour les outils, et aussi où on n'arrive à pas trop désinguer notre corps, bah, si on n'arrive pas à maintenir ce fil-là, c'est...
Oui, je pense que c'est vraiment la...
Ça passe par la transmission des outils aussi, mais j'ai un peu pas.
Non, mais c'est un peu le... C'est le gros point d'interrogation là-dessus, sur comment est-ce qu'on arrive à quand même à tenir, comme tu dis, les moments, c'est sur la durée, et c'est plusieurs années, et ça peut pas, on peut pas mobiliser tout le temps des mains, de la main d'œuvre comme ça, mais ça, je sais pas, moi j'ai pas de réponse, c'est pas forcément, mais en tout cas dans ce qu'elles évoquent, c'est pas forcément. La mutualisation, ça peut être de la mutualisation aussi, okay. Entre elles, enfin, c'est pas dans les échanges, hein, que j'ai eu aussi, parce que ça, le rapport, on parle pas, mais moi, dans les échanges que j'ai eu, on a évoqué ça.
Nous fabriquons des outils et ils contre-attaquent. Ainsi s'établit la structure de la civilisation. Par exemple, nous créons des leviers en simulant la capacité de nos bras à soulever un objet inanimé. Le levier contre-attaque, et nous bougeons maintenant nos bras comme s'ils étaient des leviers. Wilhelm Flusser, dans un recueil de ses textes intitulé « Nous sommes les enfants de Marie Curie ».
Là, ça me fait penser au terme low-tech, on parlait, on avait eu l'occasion d'en parler déjà avant, mais là, ça m'a l'air d'être le bon moment de le remettre sur la table, parce que dans ce mot-là, souvent, on comprend le côté simple d'accès, et en fait, voilà, je prends un bout de bois, des câbles, j'arrive à faire un peu avec les moyens du bord, un outil qui correspond à mon usage du moment. Sauf qu'en fait, bon, le low-tech, c'est beaucoup plus technologique que ça laisse paraître. Et là, ce que tu décris, c'est finalement même avec des matériaux de base, il y a une sorte de savoir-faire qui doit se transmettre. Et de...
Je pense que, en tout cas...
Qu'est-ce que tu mets derrière le terme low-tech? Est-ce que tu l'appliquerais, par exemple, au projet que tu as vu chez les paysannes que tu as suivies? Est-ce que tu dirais qu'elles font de la low-tech ou pas?
Je pense que ce couple de menuisières jardinières, oui, elles font de la low-tech sans sans le savoir vraiment. Elles font. Il y a quelque chose de l'ordre de l'autonomie, en fait. On parlait de subsistance, mais c'est aussi l'autonomie de pouvoir réparer soi-même, de faire soi-même et d'être dans cette démarche-là. Je pense que pour Angèle, qui a une famille. Son grand-père était agriculteur, sa sœur s'est formée au maraîchage. Donc, il y a quelque chose qui est hérité aussi du. En fait, les paysans, ils font leurs outils et du coup, elle le fait. Enfin, tu vois, c'est pareil, je pense que c'est pas vraiment. C'est une question économique, écologique. Enfin, avec.
Ouais.
C'est vraiment dans la culture. Soit tu as besoin. Je vois bien, hein, tu as besoin de quelque chose. Soit tu regardes ce que tu as et tu le bidouilles. Soit tu vas aussi. Enfin, tu vas. La grande surface de bricolage du coin. Enfin, il y a différentes façons de faire, quoi. Mais il y en a qui commencent par faire, essayer de faire eux-mêmes.
Tu penses c'est propre à la culture rurale?
Je pense qu'il y a quelque chose, et moi, c'est pour ça que je me suis installée en ruralité, et c'est hyper important. Je le pressentais pas consciemment. Enfin, c'était pas conscient, mais aujourd'hui, c'est très fort. Dans la ruralité, il y a quelque chose. De la piraterie. J'aime bien ce mot-là. C'est, je le dis consciemment. C'est-à-dire que on va pas prendre le chemin tout droit. C'est pas possible. De toute façon, il n'y est pas. Il y a que des petits chemins de traverse pour aller à tel endroit. Donc, on essaye de. C'est pas forcément la piraterie dans le sens sabotage. Mais il faut. On est un peu hors des radars, en fait. On est mal desservi. Cet éloignement, il crée deux choses. Il crée de la solidarité, de l'entraide, et il crée de la débrouillardise énormément. Et en fait, ça crée une esthétique. Moi, il y a aussi ça hein, qui me plaît. C'est un endroit de très fertile et très puissant pour mon imaginaire, en tout cas, et que je. Je trouve qu'il a été dévalué un nombre d'années trop important. Et donc ça change. Parce qu'en fait, ça remet aussi en question un certain modèle hein, de consommation, finalement. Et quand on évoquait au tout début de ta question, moi, en tête, j'avais... Quand on a voulu un peu s'équiper et aller acheter des outils, bon, on a un grand terrain, il fallait qu'on fasse un peu des choses... Pour des questions économiques, on est allé voir dans les brocantes ou sur le Bon Coin un peu les outils. En fait, c'est des hommes, et on est tombé sur plusieurs personnes de 80 ans qui, dans leur garage, ont 50 têtes d'outils différents et qui vont, tu vas les voir, en fait, ils te mettent un manche, ils te mettent un clou, ils te l'affûtent, ils te montrent comment le tenir et tout, et c'est parti. Et en fait, tout le monde a ça ici, tout le monde se prête des outils, se. Donc, bon, ça va pas plus loin que, voilà, on change le manche, on l'affûte et tout. On va pas fabriquer, enfin, ça me paraît très... J'ai jamais encore vu des gens qui venaient marteler des choses dont c'était pas vraiment le métier pour, après, travailler la terre. Ça, j'ai pas encore vu. Mais ça doit exister. J'espère.
Aujourd'hui, l'acte de faire émerger des images est séparé du reste de la vie. D'un côté, les centres d'art ou les galeries, et de l'autre, la vie. Cette séparation est difficile à comprendre, si l'on se souvient qu'il n'y a pas si longtemps on faisait des peintures rupestres après la chasse. Suzanne Husky.
Moi, je ne veux pas me placer en tant qu'artiste qui a une vision soit passéiste, soit romantique de ce que peut être le travail de la terre. Moi, quand je travaille de la céramique, je le cuis dans un four électrique. Je suis ravie que mon four, en fait, là, il est en train de cuire en ce moment, pendant qu'on parle. Je sais qu'il finit à 15h04. Si je veux, je pourrais le programmer avec mon téléphone. Et en fait, évidemment que ça me soulage à plein d'endroits, la technologie. Mais c'est toujours intéressant de ce que parfois on n'a pas trop le temps de faire quand on est dans ses vendanges et dans sa terre. C'est de parfois se poser la question, c'est à quel but en fait? Pourquoi est-ce que pourquoi je suis en train de faire ça? Est-ce que cette technologie-là, elle m'apporte de la liberté et est-ce qu'elle est en train d'en enlever à d'autres? Enfin, moi, c'est aussi beaucoup ça que je me pose comme question.
Est-ce que tu vois ton travail comme une passerelle entre le monde paysan et les artisans, les artistes?
Ce serait un peu prétentieux. Je vois, moi je fais ça parce qu'il y a de la curiosité en fait. Je pense que c'est ma motivation. En fait, ma motivation pour faire ce que je fais, c'est de montrer aux autres que c'est super. C'est un peu l'idée de oh, regarde ce papillon, il est magnifique. C'est qu'en fait, des fois, la beauté des choses ou l'intérêt des choses est trop fort pour que je le garde que pour moi. J'ai envie de. En fait, ça fait lien avec les gens, avec l'autre, avec un grand A. Dire. L'art, il permet ça. Après, du coup, peut-être que. Oui, moi, j'ai vu, comme je te l'ai dit, j'ai vu dans ces pratiques des étonnements et de la poésie et des choses que j'avais envie de partager à plus grand monde. Donc, je sais pas si je sais pas vraiment ce que ça va créer comme passerelle. Ou... C'était plutôt cette idée-là. Et puis, je trouve ça profondément triste quand même, ce qui se passe globalement, hein, dans le monde agricole. Il y a quand même beaucoup de solitude, il y a beaucoup d'épuisement. Alors que si on, sans romantiser ce que ça peut être, mais c'est quand même assez extraordinaire de produire de la nourriture et de la boisson à partir de l'eau, de la pluie, de la terre. On arrive à. Il y a quand même des choses extraordinaires. Et dans un dialogue avec la plante ou l'animal, enfin, il y a quand même des choses super belles. Et la machine fait partie de ce rouage-là, de ce méli-mélo.
Merci d'avoir écouté ce second épisode de Techno Terroir. Merci également pour tous les retours que vous m'avez faits. J'ai pu m'améliorer sur la prise de son et le montage. La prochaine fois, on part pour de bon dans les vignes.